Bonjour Alexandre.
Bonjour Frédéric, bonsoir.
Donc oui, tu es en soirée, moi je suis en journée, tu es à Paris, je suis à Montréal et bah, c'est l'idée en fait initiale du Mood qui vise à être transatlantique dans son point de vue, même si c'est en français. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce premier épisode d'un podcast qui va s'articuler autour du TechLash. Qui va être un podcast hebdomadaire tous les lundis. Et le TechLash, on va le définir ensemble, c'est la montée de différents courants de pensée et de critique sur ce qu'on appelle la Big Tech, donc les grands ensembles technologiques, ce que les Français ont été les premiers à appeler les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Il y a en ce moment une énorme montée à la fois populistes et intellectuels contre leur poids grandissant dans nos vies. Et Alexandre, tu vas nous parler d'un point de vue assez intéressant de Scott Galloway.
Oui, alors moi j'ai ce mois-ci été vraiment très impressionné par un papier qu'a posté, qu'a publié Scott Galloway dans une revue américaine dont vous verrez le lien chez Esquire. D'abord, il poste sur du papier. C'est quelqu'un qui est un très grand prof de NYU, qui est très reconnu et qui est un vrai fan de la technologie. Et il met les pieds dans le plat en disant qu'il est le moment qu'on doit casser ces monopoles parce qu'en fait leur poids est devenu insupportable au reste de l'économie. Il a encore publié aujourd'hui un post sur les monopolies où il explique comment la surpuissance d'Amazon ou la surpuissance de Google sont devenues un poids pour l'ensemble du système économique américain. C'est une voix qui porte, c'est une voix qui est une voix de marketing et c'est une voix qui s'ajoute aux voix qui ont critiqué l'impact de Facebook dans l'élection américaine. Donc ce papier qui est très très lu par ceux qui essaient de penser ce qui est en train de se passer en ce moment, à mon avis, va marquer un tournant dans cette petite histoire que l'on partage tous.
Alors effectivement, le point de vue de Scott Galloway est intéressant parce que comme tu le dis, en fait, c'est un pro-tech qui vient critiquer le poids grandissant et finalement, on va dire, le côté ahistorique, on y reviendra après avec une autre de tes références. Moi, je voulais vous parler de ce tech-clash qui monte, y compris chez les puissants de la tech. Il y a deux personnages très intéressants, je mettrai les liens, qui commencent à expliquer que Facebook est allé trop loin et que Google serait aussi un peu sur cette pente vertigineuse. Je parle de Roger McNamee, dont le papier a été publié en français dans les Échos il y a quelques semaines, et de Marc Benioff, qui est le patron de Salesforce. Alors, je ne sais pas si on connaît forcément Salesforce en France, parce qu'ils sont très américains et nord-américains dans leur déploiement, mais c'est une société de CRM, de Client Relationship Management. Et notre Benioff était à Davos en janvier, et à Davos, devant l'Assemblée des puissants et des puissantes, il a été jusqu'à dire, il faut réguler Facebook et les réseaux sociaux comme les cigarettes en leur temps, parce qu'ils sont addictifs et néfastes. Et ça, c'est un énorme pas, d'après moi, qui a été franchi parce que Marc Benioff, c'est quelqu'un dont la voix porte. C'est un ancien de Microsoft, un des lieutenants de Bill Gates, qui a monté après sa propre société, qui est maintenant milliardaire. Et quand lui dit ça, on peut s'attendre à une réaction à la fois du monde technologique des affaires, mais aussi du monde politique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que notre Zuckerberg préféré, dont on a écrit ensemble un papier, eh ben en fait, il a l'air un petit peu perdu. Et c'est ce que dit Roger McNamee dans son article, c'est que lui, McNamee, était un mentor pour, ou se voyait comme un mentor pour Zuckerberg. Il lui a présenté Sheryl Sandberg. Et je parle de Sheryl Sandberg parce que faut pas oublier son CV à Sheryl. Elle était dans l'administration Clinton, très haut placée au département du Trésor. C'est quelqu'un qui connaît très très bien Washington et on peut se demander pourquoi elle n'a pas plus de poids en ce moment pour ben, remettre Mark Zuckerberg sur les rails du contact avec le pouvoir politique. On a l'impression que Zuckerberg s'enferme dans une bulle. Et je pense,
Moi,
moi.
alors là-dessus, Pardon de
Vas-y,
t'interrompre,
vas-y,
mais
vas-y.
j'ai plusieurs hypothèses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier que la structure du pouvoir à l'intérieur de ces startups qui ont extraordinairement réussi, que ce soit Uber ou Facebook, sont des machines. La structure du pouvoir, c'est le fondateur qui l'a, à travers des droits de vote préférentiels. Et tant que le board ne s'est pas réveillé, comme ça a été le cas sur Uber, parce qu'il était en train de détruire plus de valeur qu'attendu, personne, au fond, et même Sheryl Sandberg, ne peut le faire dévier. Et il faut vraiment lire le papier qui a été écrit par Wired sur Zuckerberg pour comprendre à quel point il est vraiment le maître dans la boîte. Et pour ça, c'est pour ça qu'il souffre aussi, parce qu'il a raté la transformation de Facebook en machine de propagande politique. Il ne l'a pas vu venir, et puis il l'a prise en pleine tête. D'où ses appels à la régulation. Pour autant, et c'est le deuxième papier que je voudrais souligner, enfin le lien plus exactement, parce que c'est une interview dans Big Think d'un professeur, je crois, d'Harvard, un professeur d'histoire. Il faut aussi rester très calme parce qu'il y a cette excitation, on va dire, des décideurs et d'un certain nombre d'actionnaires. Mais on sait bien que la remise en cause des monopoles, même si elle a eu lieu dans l'histoire des États-Unis, elle n'est pas si facile que ça. Et l'histoire, effectivement, risque de se répéter. Historiquement, le fait que tous ces robber barons ou ces banquiers voleurs qui ont fait le capitalisme américain aient été, dans une certaine mesure, bloqués ou dans une certaine mesure démantelés, et ça s'est produit plusieurs fois, ne signifie pas qu'il suffit qu'il y ait quelques personnes qui leur en veuillent pour que ça se produise. La mécanique est extrêmement complexe et historiquement, c'est arrivé souvent sur un peu une victime sacrificielle, mais pas sur l'ensemble du système. Et quand bien même il y a une société qui est démantelée, ça ne veut pas dire que la tech perdra. Et c'est là, je pense, un point sur lequel on est d'accord. Il y a deux sociétés qui se sont bien positionnées par rapport à ça parce qu'elles sont gérées par des leaders sans aucun doute un peu plus mûrs comme Jeff Bezos ou parce qu'elles ont été structurées par des gens comme Schmidt, qui a été très longtemps à lobbying à Washington. À travers Alphabet et Google, qui sont beaucoup mieux positionnés que Facebook et Twitter devant la tempête qui s'annonce. Donc je pense qu'il faut vraiment nuancer le propos. Il y a des gens qui font monter cette pression intellectuelle. Il y a des gens qui, effectivement, travaillent en termes de lobbying politique pour qu'il y ait une régulation. Mais avant que ça n'arrive, il y aura plusieurs étapes, notamment politiques. Et puis quand même, même si ça arrive, il risque plutôt d'y avoir des exemples comme Facebook et sans doute Twitter, et encore parce que Twitter héberge quand même le compte du président des États-Unis, donc on le voit mal attaquer Twitter, malgré tout. Donc je pense qu'entre l'excitation d'une partie des gens de la vallée, l'excitation d'un certain nombre des actionnaires qui voient la destruction de valeur et la réalité politique de la destruction ou comment dire, du démembrement de ces monopoles, il y aura un peu de temps et sans doute beaucoup, beaucoup de politique qui va se passer avant que ça n'arrive.
Alors, je suis d'accord que ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Je reviens sur deux points. Il y a eu il y a quelques semaines une convocation à propos de ce qu'on appelle en français dans le texte ici en Amérique l'affaire russe. Il y a eu convocation des principaux acteurs technologiques, Facebook, Google et Twitter. Et les trois ont, alors soit de façon consciente ou pas, envoyé des seconds couteaux. Je ne veux pas être méchant quand je dis ça, mais ils n'ont pas envoyé le top 3 ou le top 5 de leur société. Les sénateurs et les membres du Congrès américain ont été un petit peu surpris et leur ont dit, réfléchissez, la prochaine fois, envoyez-nous vos patrons parce qu'on veut bien vous parler à vous, mais vous n'êtes pas des décideurs. Donc ça, c'est un premier point important. Il ne faut jamais mésestimer le côté procédurier et protocolaire du Sénat et du Congrès américain. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et on va arriver à la conclusion bientôt de ce premier épisode, c'est que les forces sont un petit peu mouvantes, comme tu le dis, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il est à noter qu'en ce moment, en Amérique du Nord, il y a un rôle intéressant du Canada dont je mettrai un explique ça très très bien. Il y a un mouvement en ce moment vers cette régulation, elle est demandée et elle est souhaitée, y compris par, comme on l'a dit, certains dans la tech. Et oui, la victime sacrificielle, elle risque d'arriver et elle risque d'être Facebook. Là où Facebook a l'air complètement tétanisé et très mauvais en lobbying, on a à côté un Jeff Bezos qui sait faire, qui a acheté le Washington Post, c'est pas pour rien, qui a acheté la plus grande demeure privée à Washington et reçoit le gratin du tout Washington, c'est pas pour rien, et qui va annoncer cette semaine ou la semaine prochaine que son fameux HQ2, le deuxième siège opérationnel d'Amazon, va être dans la banlieue de Washington. Tout ça bout à bout, ça montre à quel point ça compte le pouvoir politique, même encore en 2018, et Bezos l'a très très bien compris. On a l'impression que Zuckerberg, bah, il vit dans cette bulle un petit peu ahistorique. En guise de conclusion et d'ouverture, je voudrais te poser la question sur le contexte européen, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent sur ces dossiers-là, bah, le point de vue de l'Europe, qui a fait des choses assez intéressantes. Il y avait un entretien que je posterai de Mario Monti dans Le Point ce matin qui en parlait. Je pense que c'est une dimension que les Américains regardent et nous, Européens, ben on l'oublie.
Alors moi, j'ai tendance à dire qu'on ne l'oublie pas vraiment, simplement ça ne se passe pas sur la même temporalité. Il y a eu l'énorme, comment dire, amende qui a été imposée par la commission à Apple, qui a mis quand même 13 milliards de dollars d'amende. Je pense qu'il y a aussi l'histoire, parce qu'on sait que c'est l'Europe qui a bloqué Microsoft, parce que justement, c'est l'Europe qui a demandé à Microsoft d'arrêter d'être un monopole il y a bien longtemps aujourd'hui. Mais c'est quand même l'histoire. Et il est fort possible que, compte tenu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y ait d'autres éléments, notamment concernant Google, qui viennent battre en brèche sur le monopole du search la position de Google qui est ultra dominante. Je rappelle que dans beaucoup de pays européens, dont la France, la part de marché de Google est, je crois, de l'ordre de 95% dans le domaine du search. Donc, je pense qu'il y aura aussi des chantiers, on va dire, sur le tech clash, pareil sur celui de la mémoire. Donc il y aura beaucoup, beaucoup d'épisodes, à mon avis, où on verra, on reverra, on entendra parler de l'Europe, au-delà des personnalités fortes comme celle de Thiel, qui, je crois, a annoncé aux États-Unis qu'il quittait la Silicon Valley.
Il quitte la Silicon Valley pour s'établir à Los Angeles. On va publier son papier. Il dit en l'espèce que la Silicon Valley est devenue un repaire de gauchistes qui refusent le débat. Alors, il y a beaucoup à dire.
Venant d'un libertarien qui impose le débat, c'est un
C'est un
hommage.
petit peu le pompier pyromane, comme tu disais. Mais c'est à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le peu de voix dissonantes de la Silicon Valley. Je pense que ça en prend plusieurs. Et ça pourrait être le deuxième épisode de cette série sur le Tech Clash. Alexandre, je te remercie et je dis à toutes et à tous à la semaine prochaine.
À lundi prochain.